Écoute un métier, le podcast qui te permet de construire ton avenir sur Radio Campus Tours. Salut à toi, c'est Camille. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Ce mois-ci, le métier que je vais te présenter est celui de psychologue de l'éducation nationale, aussi appelé PSY-EN. Nous allons aborder son parcours académique, son travail, ainsi que des idées de solutions futures qui peuvent aider les PSY-EN à effectuer correctement leurs tâches dans les établissements scolaires. Je te souhaite une bonne écoute! Madame Patou-Lobry, bonjour!
Bonjour!
Vous êtes PSY-EN, donc psychologue de l'éducation nationale au collège Jean Roux, donc depuis la rentrée septembre, et c'est l'un des deux établissements où vous exercez.
Tout à fait. Je travaille également sur le lycée général et technologique de Choiseul à Tours-Nord.
Ok. Donc, comme première question, j'aimerais juste savoir quelle formation vous avez suivie et ce que vous avez appris lors de vos études.
Alors, j'ai fait une formation, à l'époque, c'était un DESS de psychologie clinique qui correspond maintenant à un Master 2 en psychologie. Et on est voilà, sur pas mal de choses, mais globalement, des connaissances sur le développement de l'individu, à différents âges, la population, enfants, adultes, personnes âgées, développement psychologique, cognitif, social, et puis tout ce qui est technique d'entretien.
Et quel a été votre parcours professionnel ?
Donc, après mon diplôme de bac plus 5 en psycho, j'ai travaillé un petit peu en fait, à l'hôpital. J'ai fait des remplacements de psychologue en service, voilà, différents types de services, mais pas très longtemps parce que c'était assez précaire. Et donc, j'ai tenté le concours au bout de 10 mois de travail en tant que psychologue remplacement, concours donc, de l'éducation nationale pour être psychologue de l'éducation nationale.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ?
Alors moi, je voulais accompagner de façon vraiment concrète dans le quotidien des personnes. Et je trouvais que quelque part, accompagner les adolescents sur le champ de la scolarité, c'était ce qui me semblait être quand même, c'est les ados, enfin collégiens même ou lycéens, on passe une partie très très importante à l'école, dans le milieu scolaire, et donc je trouvais que c'était être en prise directe avec ce milieu-là, c'était pouvoir être vraiment au plus près du quotidien du jeune.
Donc c'est pour ça que vous n'avez pas spécialement choisi un public d'adultes ou de personnes âgées, vous avez travaillé avec des personnes âgées au début, non ?
Alors j'ai aussi, oui, j'ai travaillé avec des personnes âgées, mais là c'était plus au-delà de la population, parce que j'aime vraiment ouais, le côté ado, mais au-delà de la population, parce que les personnes âgées j'avais bien aimé, c'est aussi beaucoup le côté en fait être dans le quotidien au niveau vraiment du champ de l'éducation nationale. C'est pas pareil que d'être dans une structure, dans un CMP ou à la maison des adolescents où là il y a des psychologues, mais ils sont pas sur la question de la scolarité du jeune. Ils sont pas sur un thème qui est une des préoccupations quand même c'est peut-être pas une préoccupation. Certains élèves sont en difficulté avec l'école justement, mais c'est quand même au cœur de leur vie réelle quoi en fait, concrète.
Et donc, vous faites collège et lycée. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge que vous préférez ?
Alors, moi, je fais collège et lycée, effectivement. J'avoue que j'apprécie vraiment bien les lycéens par rapport au fait qu'ils ont un développement qui permet plus de raisonnement, d'abstraction, plus de réflexion. Et donc, par rapport à aussi leur propre autonomie, leurs décisions, leur choix personnel, je trouve que c'est vraiment très intéressant pour un psychologue d'accompagner les jeunes de cet âge-là. Les collégiens, voilà, ils ont, au niveau maturité, il y a quand même moins de. Voilà, c'est quand même pas le même niveau dans l'absolu. Et puis aussi, même rien qu'au niveau du langage, on ne va pas développer les mêmes choses en entretien avec un lycéen qu'avec un collégien.
Oui, un collégien, ça va peut-être un peu plus se concentrer sur est-ce que je fais une seconde générale ou professionnelle, tandis qu'un lycéen, ça va être un peu plus sur les études supérieures, c'est ça ?
Alors là, pour le parcours en tant que tel scolaire et d'orientation, effectivement, il y aura déjà davantage de choses au lycée à réfléchir, parce qu'on va être sur les enseignements de spécialité, de première générale, on va être sur les séries de bac technologique, et puis les projets post-bac, donc là, où il y a pléthore avec toutes les filières qui peuvent exister. Mais en fait, non, pas seulement. C'est pas seulement ça, c'est même au niveau, même si on est plus sur du mal-être, si on est plus sur des questions de refus scolaire anxieux, de climat scolaire avec du harcèlement, bah, on n'aura pas, les entretiens seront moins riches, entre guillemets, en termes de matière pour un psychologue. On va faire des choses, heureusement, au collège aussi. Mais voilà, on a quand même moins de réflexion de la part d'un collégien que de la part d'un lycéen.
Vous gérez aussi des problèmes, pas forcément de l'ordre, de ce qui va être l'orientation, mais aussi des soucis par rapport à des problèmes d'harcèlement, c'est ça ?
Oui, alors on n'est pas tout seul, les psychologues, on travaille dans ces cas-là, dans ces situations plus de mal-être, de refus scolaire anxieux et de harcèlement. Effectivement, là, on est davantage aussi en travail collectif avec assistante sociale, infirmière et CPE. Mais oui, il n'y a pas que la partie orientation pure pour le psychologue de l'éducation nationale. On est également sur des thématiques plus émotionnelles et personnelles, en fait.
Et donc, quand on pense PsyEN, c'est tout de même assez compliqué de savoir en quoi consiste concrètement le métier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, alors c'est d'accompagner la scolarité d'un élève et ses projets d'orientation. Donc en fait, on est en entretien individuel, on est là pour écouter la situation qui pose problème, qui inquiète le jeune, qui le stresse, que ce soit pour la question plus scolaire en général ou pour vraiment un projet d'orientation, un parcours scolaire. Et donc en entretien, on écoute, on analyse les besoins. Et puis, on est aussi là pour trouver des solutions et donc voilà, voir les ressources, les leviers qu'on peut proposer aux jeunes.
Est-ce que aussi, parfois, vous collaborez avec l'infirmière scolaire, par exemple ?
Oui, très régulièrement. C'est vraiment, peut-être pas au quotidien, dans le sens, on ne va pas non plus tout voir à chaque journée l'infirmière, mais au moins une fois par semaine, on aura vu l'infirmière, également le ou la CPE. Et également, alors l'assistante sociale peut-être un petit peu moins parce que c'est des problèmes de permanence des différents professionnels, mais souvent l'infirmière est quand même là quasiment toute la semaine et également le CPE. Donc en fait, c'est vraiment des professionnels avec lesquels on travaille énormément. On est vraiment de concert ensemble.
Donc vous travaillez avec beaucoup de professionnels de l'éducation nationale et vous devez aussi voir en partie les parents vu que vous adressez un public quand même qui est mineur.
Oui, alors c'est davantage au niveau du collège. On a les parents, effectivement. Alors, les lycéens sont aussi mineurs jusqu'à une certaine classe. Mais ce sera peut-être plus pour des questions très spécifiques et très particulières qu'on rencontrera au lycée les parents. C'est peut-être plus d'ailleurs limite pour des questions liées à l'orientation aussi, où certains parents, notamment en terminale, vont demander, ou en seconde, demander à nous rencontrer.
Pouvez-vous m'expliquer une journée type, ou du moins ce qui s'en rapproche le plus ?
Alors en fait, ce qui est compliqué de la journée type, c'est que nous, on a un travail qui est quand même très, très varié. Donc déjà en fonction de l'établissement où on travaille, voilà, collège, lycée, et encore lycée, il y a le lycée général et technologique, lycée pro. Après, on va dire que quand même, le cœur de notre métier, c'est l'entretien. Donc ça restera similaire, on aura toujours des entretiens individuels. Après, à l'interne des entretiens, bon bah là, on l'a déjà dit, hein, ça peut être la scolarité, ça peut être des problématiques plus psy. Et sinon, on a des journées où, hormis les entretiens, on a des commissions de suivi. Donc là, on se réunit avec l'équipe de direction le plus souvent, et puis personnel médico-psychosocial, pour faire le point sur le suivi des élèves, leur devenir, comment ils vont, comment ils se sentent au lycée ou au collège. On a aussi des temps où on fait des bilans psychologiques. Donc on utilise souvent le WISC, qui permet de faire un état des lieux du fonctionnement intellectuel de l'enfant. Ou de l'ado, je veux dire. On a des temps aussi qui sont des temps d'écrit pour différentes structures. Hein. Souvent, c'est la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Donc, on a des écrits, des comptes rendus psychologiques à effectuer. Et puis, on a des séances aussi en classe qui peuvent avoir lieu à certains moments de l'année, des séances collectives de sensibilisation pour informer les élèves sur les parcours scolaires.
Donc, vous exercez sur plusieurs lieux de travail. Comment vous arrivez à vous organiser au niveau des tâches ?
Alors, j'avoue que, en fait, avec l'expérience, j'ai même plus vraiment la réponse. Je pense que, non, mais je dois être super organisée, mais non, en fait, on court quand même beaucoup. C'est une profession où c'est très chronophage. Donc, peut-être que la clé, c'est d'être à prioriser. Voilà, les urgences, dire bah oui, je dois appeler tel éducateur ou telle assistante sociale qui ne serait pas dans, là je parle de l'extérieur même de l'éducation nationale, ou appeler un parent parce que j'ai rencontré un élève et je suis inquiète et c'est important que j'appelle le parent en priorité pour faire le point et transmettre des éléments. Après, on a quand même, ce qui est important à dire, c'est que je peux être au collège et je vais trouver des temps si voilà, j'y arrive, je vais pouvoir appeler donc des personnes, faire des écrits, mais j'ai surtout quand même le temps technique pour tout psychologue, hein, quelle que soit la structure où travaille le psychologue. Donc même si on est psychologue en CMP ou à l'hôpital, on a des temps pour vraiment réserver pour les écrits. Et donc en fait, voilà, j'ai une journée dans ma semaine en tant que psy-EN réservée à tout ce qui est compte rendu, tout ce qui est analyse de bilan, etc. Et donc là aussi, j'ai le temps de pouvoir contacter les familles ou les professionnels d'autres structures.
Mais en réalité, je me rends vraiment compte, en plus de vos différents lieux de travail, on vous demande vraiment d'être un couteau suisse. Tout simplement, vous avez plein de tâches différentes à gérer. C'est pas seulement un aspect orientation.
Ah non, pas du tout. Effectivement, et ça, je pense que c'est, en fait, c'est très résumé l'orientation. Il n'y a pas que ça, effectivement. Et ça demande d'être très réactif, d'être organisé, vous l'avez dit, même si comme ça, spontanément, je ne sais même plus comment... Mais voilà, c'est au fil de l'eau, on sait à peu près quand même ce qu'il faut prioriser, je le disais. Et on n'a pas parlé, c'est qu'on a aussi le CIO. Donc on travaille en établissement scolaire, mais aussi au centre d'information et d'orientation. Donc là aussi, on a encore un autre lieu d'exercice, bon, qui ressemble quand même dans l'absolu, voilà, aux mêmes tâches que dans un établissement, sauf qu'on n'aura pas la partie équipe médico-psycho-sociale et puis éducative, on n'aura pas tout ça. Mais on a quand même le contact avec le public scolaire ou non scolaire. On a aussi des adultes. On reçoit D'accord. des adultes au CIO, par exemple, okay. ou des jeunes qui ont décroché du système scolaire.
D'accord.
Mais c'est encore un autre lieu.
Donc, quelles sont les qualités nécessaires pour exercer votre métier ?
Alors, l'altruisme, être vraiment ouvert, s'intéresser aux autres, l'écoute, la disponibilité, à la fois disponibilité psychique de nous-mêmes en tant que professionnels, et puis disponibilité par rapport à toutes les tâches qu'on vient de dire qui sont très variées. Et enfin, je dirais l'adaptation, parce qu'effectivement, il faut pouvoir s'adapter au public. On peut passer dans les entretiens, vraiment d'une situation qui sera très psy à très orientation, un mix des deux, parce que bien sûr, la psychologie a un impact sur la scolarité et donc sur ses projets. On peut passer d'un jeune qui a un handicap avec une trisomie mosaïque, c'était un entretien très récent que j'ai eu, à une aussi équipe de suivi de scolarisation, c'est-à-dire que là, on est plus avec le jeune, ses parents et toute la communauté éducative, les professeurs, pour essayer de trouver une solution et accompagner le jeune qui a un handicap. Voilà, c'est vraiment, mais d'heure en heure, on a à chaque moment quelque chose de nouveau, en fait.
C'est vraiment un métier qui a l'air très prenant mentalement.
Oui, il faut savoir aussi prendre de la distance.
Oui.
Là aussi, c'est avec l'expérience qu'on arrive à prendre de la distance, parce que je me rappelle quand même de quand j'étais plus jeune dans la profession, de nuit blanche. On a quand même des situations qui peuvent être très lourdes, on s'inquiète vraiment beaucoup. Et là, au-delà de l'expérience, c'est surtout ne pas rester seule, en fait. Mmh. C'est justement là le point positif de travailler dans une structure et pas être en cabinet libéral, c'est d'être en équipe. Et donc de pouvoir échanger sur les problématiques qu'on a rencontrées et de pouvoir avoir des regards croisés, différents, et de pouvoir trouver des solutions pour accompagner l'élève qui est en difficulté.
Justement, sur le site officiel de l'Éducation nationale, il est écrit que le PSY-EN, donc je les cite, contribue aussi à favoriser une approche bienveillante de l'école. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ?
Alors, à mon avis, on est dans l'idée, le sens de ça, c'est l'écoute. Alors, je ne suis pas la seule, hein, on contribue, en fait, le PSY-EN, mais également d'autres professionnels, hein, mais on est dans l'écoute spécifique. Et c'est vrai qu'au départ, l'Éducation nationale, c'est quand même un... comment dire, c'est quelque chose de très collectif. On est dans, toujours dans une classe, on est un groupe. L'enseignant, voilà, il fait des cours auprès d'un, toujours de ce collectif. Et nous, justement, on a une écoute qui sera individualisée, personnalisée. Et donc, on est dans la compréhension de ce jeune, dans sa singularité. Et je pense que c'est en ça qu'on va avoir une approche bienveillante, parce qu'au plus près des besoins de ce jeune qu'on aura rencontré.
D'accord. Il y a-t-il des contraintes auxquelles vous devez faire face et auxquelles vous n'étiez pas préparé lorsque vous avez commencé ?
Alors, la multitude des intervenants, intervenants à l'intérieur de l'éducation nationale, et multitude à l'extérieur, et surtout depuis encore plus quelques années. Donc là, au-delà de l'expérience qu'on peut avoir dernièrement, en tout cas sur le champ de l'orientation, mais pas que, sur le champ aussi de la psychologie, on a énormément de personnes qui... alors, il y a des coachs, hein, mais il y a aussi même vraiment mis en place énormément d'intervenants qui, en fait, participent et vont à l'intérieur des établissements pour faire des informations. Et c'est vrai qu'il y a une multitude de, d'informations. Alors, je pense qu'il n'y a pas seulement des intervenants, mais il y a aussi les jeunes avec tout ce qui est des différents canaux, les réseaux sociaux, tout ce qui va être l'information par le web ou autre. Il y a énormément d'informations. Et moi, des fois, au départ, enfin, c'est vrai que depuis quelques années, il y avait tout ça qui se mettait en plus de nous. Je sais qu'on peut se dire, mais alors, le psy-EN, dans tout ça, il peut s'y perdre.
Oui.
Alors, moi, je m'y perds pas trop dans le sens que je reste à penser que c'est un temps hyper important où, justement, on peut se poser avec le jeune, échanger. Il aura eu plein d'informations de toutes parts, de multitudes de professionnels, et pas des psychologues, hein, des personnes qui vont être des profs, des potes... des étudiants, etc. Et là, justement, ça peut être bien d'avoir le psychologue qui va avoir un regard porté sur ce qui aura été retenu par le jeune. Et d'échanger, ça va pouvoir permettre aussi à ce jeune, en fait, de donner sens à tout ce qu'il aura entendu. Ça va être un moment important pour justement tout, enfin, pas tout, mais rassembler beaucoup de choses et qui personnalise tout ça, en fait. Qui fasse sienne ou sien, tous ces éléments pour qu'ils puissent avancer et cheminer, maturer.
Pour quel type de problème les élèves vous sollicitent le plus ?
Bah, ça va être... moi, je trouve quand même beaucoup la question de trouver sa place dans le groupe, dans beaucoup les relations interpersonnelles. C'est quand même quelque chose qui ressort beaucoup. Ça, c'est sur le plan plus
intrafamilial aussi, ou vraiment plus avec les autres de leur âge?
Ouais, vraiment avec les groupes de pairs, les groupes de copains, copines. Je trouve que ça ressort beaucoup, les relations interpersonnelles, les problématiques de climat, et puis bien sûr après les questionnements plus liés au projet d'orientation. Et là, on a différentes choses. On a des jeunes qui n'ont aucun projet, et là, c'est vrai qu'il faut partir de rien. Et enfin, de rien spontanément, hein, dit comme ça expressément, et avancer dans les centres d'intérêt, les forces, mais en termes de qualité, hein, les différentes ressources du jeune pour amener un projet. Il y a des jeunes qui ont déjà leur projet, mais qui malheureusement ont peut-être des contraintes extérieures, c'est-à-dire que l'école va dire bah non, ton projet tel quel, il ne sera pas réalisable parce que tu n'as pas le niveau suffisant. Donc là, qu'est-ce qu'on propose aux jeunes ? D'autres stratégies, remobiliser le jeune, qu'il soit quand même motivé pour continuer sa formation tout en trouvant d'autres solutions. Donc voilà, et c'est vraiment très riche, quoi, en fait.
J'ai une question qui me vient là à l'esprit, mais lorsque vous avez donc un mineur, tout simplement, et que vous avez besoin de voir ses parents, donc vous voyez ses parents ou la personne qu'il représente, mais lorsqu'il s'agit d'un mineur qui est en foyer, vous voyez... vous êtes confronté à qui ? Le tuteur, le gérant du foyer
On est plutôt avec les éducateurs du foyer.
D'accord.
Ils ont un référent, ils ont un éducateur spécialisé, en fait.
D'accord.
Et c'est quand même plus qu'avec le parent qui souvent, même s'il n'est pas déchu de son autorité, en fin de compte, c'est avant tout par l'éducateur. On peut avoir des entretiens éducateurs, parents et enfants, mais au final, c'est vrai, le suivi se fait davantage avec l'éducateur.
Et donc, quels sont les points positifs du métier ?
D'après moi, hein, comment je le vis, moi, c'est la richesse, justement, la variété, une multitude de tâches. C'est ce qui, moi, me semble vraiment hyper intéressant, c'est que on touche à énormément de choses, en fait. On s'ennuie pas. Hein.
Je vois ça. Avez-vous des formations au cours de votre carrière ?
Oui, on a des formations qui vont être formations du type gestion d'un événement grave. Donc effectivement, par rapport à des événements graves au niveau de, bon, concrètement, hein, malheureusement, des suicides qui peuvent se produire. Tout ce qui est bilan psy, mise à jour des bilans psy aussi. Tout ce qui va être, on l'a dit, hein, dans le suicide, il y a aussi tout ce qui est évaluation du potentiel suicidaire. Donc quand même aussi renouveler nos techniques par rapport à savoir évaluer le degré d'urgence pour un jeune qui serait peut-être dans un risque suicidaire. Et puis les questions aussi d'orientation, hein, les stéréotypes de genre par rapport au, je parle de genre par rapport au projet, etc.
Par exemple, les jeunes filles qui auraient plus tendance à être envoyées vers les métiers donc du care, donc du soin à la personne, de l'esthétique, tout ça, tandis que les garçons on privilégiera peut-être un peu plus pour eux une voie un peu plus individualiste, où ils penseront plus à eux que prendre soin des autres.
Et
c'est
puis
ça.
Oui, beaucoup plus chez les garçons, tout le secteur, on va dire, alors des sciences et techniques, oui, de l'industrie, ingénieurs, voilà. Donc effectivement, d'essayer d'avoir quand même toujours, même si on rencontre un élève et on écoute ce qu'il souhaite, mais des fois il va s'auto-censurer en répondant à des exigences sociales, familiales, et essayer de voir pour porter une ambition qui peut être autre en fonction, bien sûr, de ses capacités. Mais voilà.
Et existerait-il des solutions concrètes qui peuvent être appliquées dans les établissements pour aider les psyènes dans leurs tâches ?
Alors, je pense qu'en fait, il faudrait être plus nombreux et nombreuses, parce qu'en fait, on se déploie sur plusieurs lieux. Et ce qui fait que quand on est dans un lieu pour la semaine, au final, c'est trop peu. Être une seule journée en collège, une seule journée en lycée, une seule journée au CIO, c'est pas suffisant. Moi, j'aimerais pouvoir être beaucoup plus comme les infirmières, par exemple, ou comme les CPE. J'aimerais pouvoir être plus longtemps dans un établissement. Ça veut pas dire être que dans un seul établissement, mais au moins doubler mon temps. Et pour ça, ça voudrait dire qu'il faut être plus nombreux, être plus de psy-EN. Et comme ça, on pourrait se partager plus d'établissements. On resterait plus longtemps dans chaque établissement.
OK. Et donc, avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait devenir psy-EN, un étudiant, quelqu'un qui va bientôt passer le concours ?
Déjà, je pense que ça pourrait être pas mal de faire un stage auprès d'un psy-EN, donc en étant dans un CIO, se renseigner pour faire un stage pendant son cursus de psycho, d'aller donc dans un centre d'information et d'orientation. Nous, d'ailleurs, on reçoit régulièrement, on est tuteur hein, d'étudiants de psycho. Au CIO de Joué-les-Tours, d'Amboise, de Loges, de Chinon, si on parle du 37.
Avez-vous des perspectives d'évolution ?
Les perspectives les plus classiques, c'est directeur du centre d'information et d'orientation, également inspecteur au niveau de la direction académique, ce qu'on appelle la DSDEN. Et là, on va plus effectivement chapeauter les CIO, faire la politique de l'orientation, mais aussi s'occuper de situations vraiment d'affectation par rapport à certains élèves sur les conseils du psy-EN. Au final, c'est l'inspection académique qui va affecter les élèves, et donc c'est l'inspectrice de l'information et de l'orientation. Donc voilà, c'est directeur de CIO et inspecteur.
Pour clore cette interview, j'ai une dernière question. Avez-vous un meilleur souvenir à nous faire partager ?
Alors en fait, on en a quand même pas mal, parce que les meilleurs souvenirs, c'est quand les jeunes nous renvoient que ils ont été, ça leur a apporté ce qu'on a pu faire ensemble. Et l'an dernier, par exemple, sur mon lycée, j'ai une jeune fille en terminale qui est venue me voir, qui m'a apporté un bouquet de fleurs. On s'est pris en photo parce que en fait, c'était une jeune fille que j'avais rencontrée en seconde. Elle a fait tout le cursus lycée dans le même lycée, avec moi. Et elle arrivait en seconde avec une certaine méfiance, je dirais même une défiance face à l'institution, parce qu'elle était dans un collège privé précédemment et ça s'était pas du tout bien passé. Il y avait eu des problèmes vraiment, en fait, même limite de racisme. Donc elle était plus du tout en confiance avec l'adulte en général, en tout cas adulte en référence à l'institution. Et donc au niveau de l'accroche, de la motivation scolaire, c'était pas top. Et puis au final, en entretien, on a fait connaissance. Je lui ai montré à quel point, au contraire, elle avait plein de ressources, cette élève, et qu'il fallait qu'elle refasse confiance petit à petit avec le temps. On s'est pas vu non plus, on s'est suivi hein, vraiment toutes les deux, mais on s'est pas non plus vu toutes les semaines. Hein, c'était plutôt 3 fois par an, 3 à 4 fois par an, en seconde, en première et en terminale. Et puis elle vole de ses propres ailes et elle a eu son bac et maintenant elle fait des études supérieures et voilà, donc elle sait qu'elle peut me revoir au CIO s'il y a besoin. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de raison. Elle était super contente. Du lien qu'on a pu créer.
Oui, c'est vraiment extrêmement gratifiant.
Oui, c'est clair. Alors, par contre, c'est pas malheureusement, tous les jeunes ne vont pas venir à chaque fois nous dire que ça s'est bien passé. Mais on le sait. Globalement, on sait que ça se passe bien. On sait ce qu'ils deviennent plus ou moins. Et après, c'est pas qu'on le retour, il n'est pas obligatoire. C'est déjà au moment présent, quand on est en entretien, on sent déjà quand on apporte quelque chose aux jeunes.
Eh bien, écoutez, madame, je vous remercie pour cette interview. Ça a vraiment été un plaisir.
Partagé. Merci beaucoup.
C'est déjà la fin de ce podcast sur Radio Campus Tours. J'espère qu'il t'aura plu et n'oublie pas de t'abonner sur la page Instagram d'Écoute un métier. À bientôt.